Nous commençons donc le séminaire qui suivra ce cours chaque semaine et pour lequel, comme je le disais, j'ai essayé d'apporter des compléments ou de faire apporter par mes invités des compléments, soit historiques, soit théoriques. Et il était donc juste d'avoir comme première invitée Ruth Amossi, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de polémique. Elle est professeure émérite à l'Université de Tel Aviv, titulaire de la chaire Henri Glasberg de culture française, et elle est directrice d'un groupe de recherche intitulé ADARR sur l'analyse de l'argumentation et de la rhétorique. Et je voudrais signaler leur très belle revue en ligne qui s'intitule quelque chose comme ADARR, mais pas argumentation et rhétorique, que vous pouvez consulter, où il y a donc beaucoup de choses, une belle revue en ligne, où vous trouverez beaucoup de choses qui entrent dans le cadre de notre recherche, de notre réflexion. Nous avons dans le passé beaucoup collaboré lorsque j'étais à la Sorbonne avec l'Université de Tel Aviv. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, à commencer par le stéréotype, les idées reçues, et je me contenterai, pour ne pas perdre trop de temps, de signaler le plus récent, qui est intitulé « Apologie de la polémique » et qui donc entre directement dans le cadre de notre réflexion, comme je le signalais tout à l'heure, sur cette utilité de la polémique à la fois littéraire, démocratique et politique. Je lui donne donc la parole pour controverse littéraire et polémique publique.
Merci beaucoup, merci Antoine. Donc, lorsqu'Antoine Compagnon a bien voulu me solliciter pour ce séminaire, j'étais bien sûr très très honorée. Mais en même temps, j'ai eu un petit moment d'hésitation, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la polémique, comme en témoigne le livre que tu as bien voulu mentionner, que j'ai publié donc en 2014 et qui s'appelle « Apologie de la polémique ». Je réfléchis de longue date à ce sujet. Mais en fait, mes travaux portaient sur la polémique publique, c'est-à-dire qu'ils exploraient les débats virulents qui déchirent un pays sur une question de société. Alors, ces débats houleux se déroulent dans l'espace public, donc dans les cadres institutionnels, où se prennent les décisions comme le Parlement, le Sénat, ils se déroulent dans la presse écrite, électronique bien sûr, dans les échanges numériques, les forums de discussion, etc. Et je m'étais posé la question de savoir pourquoi ce phénomène qu'on n'arrêtait pas de réprouver parce que la polémique a mauvaise presse, pourquoi il persistait malgré d'incessantes condamnations. Donc, au fond, comment il fonctionnait et surtout, quelle fonction sociale il remplissait. Alors, j'avais trouvé des réponses à ces questions à partir d'études effectuées sur le terrain, je veux dire en analysant de près des cas de figure précis, comme par exemple la discussion sur la question de savoir s'il faut ou non autoriser le port de la burqa en France. Mais rien ne garantissait, au fond, que ces conclusions sur les confrontations verbales dans l'espace public étaient aussi valables pour les controverses littéraires. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre en compte la spécificité du terrain, donc en l'occurrence le champ littéraire dont parlait Antoine Compagnon, et qui a sa logique et ses lois propres. Mais j'ai tout de suite été intéressée par un phénomène particulier sur lequel j'ai décidé de braquer les projecteurs, parce que les querelles littéraires ne sont pas nécessairement coupées des grandes polémiques qui agitent l'espace public. Donc en fait, il arrive souvent que les deux plans se rejoignent, aujourd'hui dans des discussions toujours très médiatisées. Donc un ouvrage de fiction peut donner lieu à des débats qui débordent largement le champ littéraire et ses agents. Et on a alors affaire à des controverses sur la littérature qui deviennent de véritables polémiques publiques. Alors, dans ce cas, les dissensions ne portent pas seulement sur la valeur ou l'interprétation d'un texte littéraire, mais aussi sur les questions de société qu'il soulève. Bon, alors voilà, ça c'est l'exemple dernièrement du roman de Houellebecq, Soumission, qui projette dans un proche avenir la prise de pouvoir, d'ailleurs tranquille, des musulmans en France. Donc, en choisissant cet angle d'attaque, j'avais bien conscience que je me situais dans le cadre de la controverse sur la littérature et non de la polémique qui s'exprime dans le texte littéraire. Donc, plutôt que d'examiner un texte fictionnel ou poétique qui attaque une cible, j'entreprends d'analyser la discussion sur l'œuvre. Mais ce déplacement, selon moi, ne nous laisse pas en dehors du domaine de la littérature, qui comprend non seulement le texte, mais aussi son pourtour, tout ce qui s'écrit sur lui et à partir de lui. Donc, je voudrais me demander comment se déroule la confrontation autour d'une œuvre fictionnelle quand elle dépasse les discussions entre experts et les querelles liées à des rivalités littéraires, quand elle est donnée en pâture au grand public à partir d'une discussion sur des enjeux sociaux. Alors, on pourrait supposer que l'obéit avant tout à une régulation propre au champ littéraire, ou alors au contraire que la littérature devient un simple prétexte. Mais justement, l'intérêt d'examiner le littéraire à la croisée du social est justement qu'il n'y a pas de coupure entre les deux. Je veux dire, il n'y a pas soit un débat de connaisseurs soumis à la logique du champ littéraire, soit un débat de société qui traverse un texte réduit au rang de prétexte. Donc d'un côté, la controverse tourne bien autour de la valeur de l'œuvre, de sa qualité littéraire, mais de l'autre côté, la discussion critique ne se cantonne pas à des questions d'esthétique. En fait, elle est liée étroitement au social et à l'éthique, dans la mesure où ce qui est en cause, c'est justement la façon dont l'éclairage fictionnel modèle la réalité, dont il oriente des façons de voir et de penser. Alors, j'ai essayé ici de répondre aux questions soulevées à partir d'exemples concrets, comme je le fais toujours. J'ai pris deux exemples qui sont puisés dans les débats suscités par des fictions mémorielles. Alors, il s'agit des débats qui se sont déroulés autour de romans, qui se donnent comme des témoignages fictionnels et plus particulièrement des témoignages de guerre. La première polémique porte sur la Première Guerre mondiale, sur la controverse autour de l'ouvrage de Norton Cru, sur les témoignages de 14-18, donc autour du jugement sévère qu'il a émis sur des romans célèbres comme Le Feu de Barbus ou Les Croix de Bois de Dorgelès. Et je me rattache ainsi au sujet qui a été déjà exploré au Collège de France par Antoine Compagnon en 2014, en l'examinant sous un angle un petit peu différent. La seconde polémique porte sur la Deuxième Guerre mondiale et l'extermination des Juifs, et elle tourne autour du roman de Jonathan Little, Les Bienveillantes, publié 60 ans après la fin de la guerre, donc en 2006. Et ici, il ne s'agit plus d'un récit de guerre écrit par un témoin qu'il a vécu dans sa chair, mais des confessions fictionnelles d'un personnage inventé de toutes pièces que le romancier ancre dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qui rassemble ces deux cas en soi très différents? Eh bien, c'est que la polémique prend pour objet des textes qui disent à leur façon le traumatisme profond causé par un déchaînement immodéré de violence, une nouvelle forme de barbarie. Plus jamais ça. C'est le mot d'ordre qui découle des deux situations traitées par la fiction testimoniale. Et il s'agit alors de voir en quoi et comment la littérature de guerre contribue à réaliser ce mot d'ordre tacite. Et c'est bien là-dessus que porte un débat virulent, qui met en cause la valeur de la fiction testimoniale en relation avec ses enjeux sociaux et je dirais ses retombées morales. Alors, je vais commencer par une rapide présentation de la polémique pour en donner une définition opératoire, en précisant les fonctions qu'elle remplit sur la place publique, et après je vais examiner rapidement les deux cas de figure sélectionnés. Voilà, Antoine Compagnon nous rappelait la citation de Gautier, « Il quittait l'épée pour la plume et ne se servait pas moins bien de l'une que de l'autre. » Ça nous amène tout droit à la notion de polémique, terme qui est mentionné pour la première fois dans le dictionnaire de l'Académie française de 1718. Mais au cours des siècles, Catherine Carbat-Curricioni, qui est une linguiste, a vu que les dictionnaires ont donné finalement des définitions très pauvres. Ils parlent de débats vifs ou agressifs. Alors, étymologiquement, vous le savez, polémique vient du grec polémos, donc la guerre, c'est une guerre verbale, une guerre de plumes. Assimilation d'ailleurs du débat à une lutte armée qui n'est pas innocente, parce qu'elle manifeste la transformation de l'échange verbal en un combat où il s'agit de vaincre l'autre par la force. Donc, dans l'étymologie du terme, se noue le refus du dialogue raisonné au profit des rapports de force, la lutte entre camps ennemis, la violence verbale, la mise à mort symbolique de l'autre. L'enjeu de la polémique, si symbolique soit-il, notait Shoshana Fellman, est le meurtre de l'adversaire. Alors, on est proche de l'héristique antique qui s'oppose à l'agone, où tous les coups étaient permis pour gagner, et aussi de la mythologie grecque, où la déesse de la querelle et de la discorde, Eris, celle qui a lancé la pomme de la discorde, où elle accompagnait son frère, le dieu de la guerre, Arès, sur le lieu des batailles. Voilà, donc, l'étymologie permet de saisir la négativité qui s'inscrit dans cette dégradation du dialogue en combat, et elle explique pourquoi des connotations péjoratives sont attachées au terme de polémique. Bon, alors, quand on regarde dans les médias les définitions qu'on y trouve, eh bien, elles confirment ces résultats, parce que la polémique apparaît toujours comme une réaction à une prise de position sur laquelle il y a des accords, dans un contexte passionnel et à travers des propos hyperboliques. Elle est souvent qualifiée de vaine, de stérile, et elle n'est pas perçue comme participant de l'argumentation, ou alors on dit, bon, c'est de la pseudo-argumentation. Bon, je voudrais donc donner maintenant, sortir de ces définitions, qui me semblent insuffisantes, sinon incorrectes, et donner une définition opératoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la polémique ? Alors, tout d'abord, la polémique porte sur un sujet d'intérêt public, sinon c'est juste une querelle entre particuliers. Elle est de l'ordre du conflictuel, c'est-à-dire du choc, du heurt se produisant lorsque des forces antagonistes entrent en contact et cherchent à s'avancer réciproquement. Elle relève de l'argumentation, c'est bien une confrontation de discours antagonistes. Dans la polémique, l'opposition devient l'objet d'une dichotomisation, donc deux options antithétiques qui s'excluent l'une l'autre. Alors, c'est noir ou c'est blanc. C'est une dichotomisation, d'ailleurs, qui radicalise le débat, qui rend parfois difficile et sinon impossible de le résoudre. La polémique crée une polarisation, donc un regroupement en camps adverses et les d'ordre social. Elle pose un « nous » face à un « il ». Ce sont des groupes fortement contrastés et mutuellement exclusifs. Et enfin, elle travaille à discréditer l'adversaire aux yeux du tiers. Alors, qu'en est-il de la passion qu'on évoque si souvent ? Mais en fait, le pathos n'est pas du tout une dimension obligée. Et en plus, l'engagement passionnel ne soustrait pas du tout la polémique à la rationalité du débat. Le pathos peut très bien faire bon ménage avec le logo, c'est-à-dire avec la raison. Et ensuite, la violence verbale, bon, elle est fréquente, mais ce n'est pas un trait obligé non plus. Et il ne faut pas confondre violence verbale et polémique. Alors, dans ce cadre, je voudrais juste rajouter quelque chose, souligner la tension qui règne entre l'expression très forte du désaccord, mais aussi l'adhésion à des normes et à des valeurs communes sans lesquelles l'échange n'est pas possible. Par exemple, il faut que les parties s'accordent sur une série de choses qu'est-ce que c'est qu'un sujet d'intérêt public? Est-il nécessaire d'en débattre sur certaines valeurs de base et aussi sur les règles de l'échange? Parce que la gogne, la lutte verbale, c'est un jeu réglé, hein, qui varie d'ailleurs selon les genres de discours. Bon. Alors voilà, ça, ce sera un cadre d'analyse. Est-ce que c'est encore opératoire pour la controverse littéraire? Mais ce qui est important ici, et c'est essentiel même, c'est de s'interroger sur les fonctions que remplit la polémique publique. Alors, la polémique publique, évidemment, elle vise à persuader le tiers, jamais l'adversaire, ça c'est en général inutile. Elle permet des jeux de positionnement, elle permet de tisser du lien social en exposant les individus aux opinions de l'autre et en autorisant des échanges avec ceux qui ne pensent pas comme vous. Elle crée des communautés virtuelles et souvent mouvantes en regroupant les individus dans des camps antagonistes. Parfois, elle favorise la protestation collective et prépare à l'action. Et alors, ce qui me paraît très important, c'est que même quand il y a des dissensions profondes, elle autorise, faute d'accord possible, une coexistence dans le dissensus, c'est-à-dire un mode de vivre ensemble. On peut vivre ensemble, voilà, sans tomber d'accord. Bon, mais qu'est-ce qui se passe quand on passe aux polémiques qui éclatent à propos d'un texte de fiction? Essayons de le voir sur notre fiction testimoniale. Bon, alors, tout d'abord, n'aurait-on cru que je vais traiter très rapidement. Donc, c'est une querelle qui a été publiée dans une revue, Les Nouvelles littéraires, en 1930, qui a trouvé un prolongement dans une version abrégée de l'ouvrage de n'aurait-on cru, du témoignage. Et cette controverse passionnée tourne autour du livre Témoin et elle soulève plusieurs questions. Qu'est-ce que la vérité en matière de témoignage? Quelles sont les marges de liberté accordées à la fiction testimoniale? Dans quelles conditions le témoignage peut-il transmettre une leçon à l'avenir? Alors, le débat rassemble des érudits et des romanciers. Donc, les polémiqueurs sont aussi les auteurs pris à partie, qui tiennent à se défendre, hein, cru aussi d'ailleurs. Et on a là une querelle d'auteurs qui constitue l'une des dimensions les plus voyantes de l'échange polémique. Mais il me semble que les questions soulevées présentent des enjeux qui dépassent de très loin cette querelle littéraire. Bon, d'abord, évidemment, c'est une polémique qui est destinée à un public cultivé. Hein. Ce sont des hommes de lettres. Et en plus, ils partagent les mêmes positions sur l'objectif global de la littérature de guerre, c'est-à-dire qu'ils s'accordent tous sur l'idée que le récit témoignage des poilus a pour but, pour finalité, de détourner l'auditoire de la guerre. Donc, finalement, dans cette optique, le témoin reçoit dans les deux camps la même importance et la même fonction. Bon, mais alors, si les divergences ne concernent ni l'importance ni l'objectif des récits de guerre, sur quoi portent-elles? Et pourquoi le débat revêt-il une telle ampleur? Pourquoi? Eh bien, pas seulement parce que les critères qui garantissent un bon témoignage doivent fournir des matériaux fiables à l'historien, mais aussi parce qu'il s'agit de persuader les lecteurs de l'horreur de la guerre. Donc, dans cette perspective, on discute de la question de savoir dans quelle mesure il est légitime d'altérer la représentation des combats et de la vie des tranchées dans un but idéologique ou esthétique. Aux critiques virulentes que Cru adresse aux romanciers les plus célèbres répondent les déclarations enflammées de ceux qui défendent le droit de l'art à transposer le réel et puis qui louent l'emprise d'une telle transposition sur le lecteur. Donc, d'un côté, on trouve Cru et ses défenseurs qui insistent sur la force intrinsèque d'une authentique relation du vécu. Alors, selon eux, le témoignage des combattants a une valeur d'évidence qui rend superflue toute démonstration et il transmet un savoir qui comporte déjà en soi ses conclusions, comme vous pouvez le voir dans la citation de Cru sur le PowerPoint. En fait, on pense que si les gens savaient, ils s'abstiendraient. C'est pourquoi la vérité du vécu de la Grande Guerre se donne comme une évidence dont la fulguration propre permet de faire l'économie d'une argumentation bonne et due forme. Alors, Norton Creux, justement, il va s'acharner contre la rhétorique. Pourquoi ? Eh bien, au nom de l'éloquence sans fard d'une vérité qui parle d'elle-même. Alors, il fustige hein, les exagérations, les déformations romanesques. Il dit que chez les grands auteurs, il y a des excès, des abus, des déformations et des efforts toujours visibles pour atteindre au sensationnel. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à manier l'argument ad hominem, parce que De Barbus, il écrit qu'il a une propension à créer des monstruosités, ce qui dénote chez lui un esprit morbide. Alors, les opposants de Creux ne se privent pas non plus de l'injurier. Barbus le traite de faible d'esprit et d'ignorant. Mais ils attaquent surtout ce qu'il dit sur l'écriture littéraire de la guerre. Parce que pour eux, la documentation brute ne suffit pas du tout à emporter l'adhésion. Donc, si on défend la nécessité de transposer la réalité pour faire œuvre d'art, c'est parce que finalement, la légitimité de la représentation fictionnelle découle de son pouvoir à agir sur le lecteur. Et donc, voilà, joli nom, quand Creux critique remarque, lui, il dit que c'est justement à cause des déformations expressives hein, qui font de son livre une relation moins vraie mais plus frappante pour la foule, c'est ça qui établit une fois de plus la primauté du témoignage littéraire et condamne les arguments de M. Creux. Voilà, donc vous avez ici encore toute une série de citations là-dessus. Alors, nous allons passer à notre deuxième exemple, c'est-à-dire les bienveillantes. Les bienveillantes tournent autour de la fiction testimoniale, donc sur la façon dont le roman doit représenter le réel, question qui s'articule sur des questions éthiques et sociales. Donc, je l'ai dit, il ne s'agit plus du tout du témoignage romancé de quelqu'un qui a vécu l'événement, mais de confession fictive. Alors, il s'agit d'un bourreau nazi qui parle à la première personne. Confessions sont rédigées en français par un jeune écrivain américain d'origine juive sur la base d'archives et de travaux d'historiens. Et le protagoniste Max Haue a fait partie des Einsatzgruppen qui étaient chargés de la liquidation des juifs dans les territoires occupés de l'Est. Alors, cet ouvrage a reçu 2 prix littéraires, ce qui est assez rare, Académie française et prix Goncourt. Il a été un immense succès de librairie, malgré le fait que ce soit un vrai pavé, parce qu'il fait plus de 900 pages. Alors, il a été aussitôt encensé. Donc, vous pouvez voir là, une époustouflante réussite, une fraise d'une grande ampleur, etc. Mais d'autres, au contraire, ont crié au scandale, un scandale de librairie signé Gallimard, un canular de la littérature de gare, et Claude Lanzmann, donc le célèbre réalisateur de Shoah, écrit « La fascination de Little pour l'ordure, pour le cauchemar et la perversion sexuelle, irréalise son propos et son personnage, suscitant malaise, révolte, on ne sait pas contre qui et quoi. » Alors, un premier conflit d'opinion surgit sur l'opportunité même de donner la parole au bourreau. A-t-on le droit de laisser la parole à un nazi, fut-il le fruit de l'imagination d'un écrivain, Le Figaro ? En France, dans l'Express, la polémique prend une nouvelle tournure. Est-il moral de faire parler un nazi ? Alors, certains disent que c'est là justement la force du roman, c'est de montrer le point de vue du SS et de donner une voix au bourreau nazi qui, en général, ne s'exprime pas beaucoup, comme le constate Little, qui est désireux de combler cette lacune. Dans un article très élogieux de l'Express, le critique y voit le privilège de la fiction. Alors que les bourreaux se refusent d'ordinaire à remuer la boue, Haue, lui, intelligent, cultivé, cynique et sans remords, réfléchit sur sa vérité. D'autres, au contraire, s'indignent. Donc la situation qui permet à un criminel, même romanesque, de raconter ses actes en toute impunité paraît immorale. Et surtout, il y aurait là une délégation de paroles scandaleuse parce qu'elle substitue à la voix des victimes celle d'un bourreau qui, dit Dosa, se font entendre par la grâce d'un plumitif qui usurpe les travaux des historiens. Alors, à travers la critique du témoignage romanesque, c'est la question mémorielle qui se repose. Est-ce qu'il faut, pour offrir une tombe aux victimes sans sépulture, faire entendre la seule voix des rescapés, dont la déposition suffira à empêcher définitivement le retour de l'horreur, ou est-ce qu'au contraire, il faut remonter aux sources du mal, tenter de comprendre ce qui l'a rendu possible, en s'interrogeant sur ceux qui ont été les exécuteurs? Alors certains, comme l'historien Ingrao qui a travaillé sur les SS à la tête des Einsatzgruppen, certains pensent que justement, si les lecteurs sont fascinés, c'est parce qu'ils sentent bien que si l'on veut comprendre les massacres, les atrocités, il faut en passer par le discours des bourreaux, pas par celui des victimes innocentes par définition. D'autres, au contraire, vont s'insurger contre ces positions. Ils font valoir que le discours d'un ancien SS non repenti ne peut apporter aucun éclairage sur la Shoah, il ne peut que profaner sa mémoire, il présente les victimes dans une indifférenciation gênante, il se permet des images qui sont une insulte à la mémoire des victimes, et il en vient ainsi, selon Dosa, à mélanger dans la même fosse commune la souffrance de la victime et les émois sexuels du bourreau. Alors, cette question se relie à celle de savoir si la délégation de la parole au bourreau parvient vraiment à exposer les ressorts de sa logique, donc d'une logique mortifère, et c'est la question du raisonnement, qui est ici en jeu. Bon, alors, certains disent que pour comprendre, pour pénétrer dans l'univers du nazisme, il faut voir comment fonctionne l'argumentation de ceux qui y ont adhéré, et donc qui félicitent l'auteur d'avoir reconstitué la logique d'un nazi qui agit pour des raisons idéologiques. D'autres, au contraire, attaquent cette position. Little nous montre la part d'humanité résiduelle de ce Max A au prix d'une réduction de l'altérité de la logique nazie. Ce faisant, il esquive une question majeure. Comment comprendre que ces raisons aient pu être dans la tête des nazis des raisons? Et en fait, il faudrait pour ça restituer leur univers mental, ce que le roman n'arrive pas à faire. Je vais sauter sur la question de la langue, qui est pourtant intéressante, mais on a peu de temps, et juste noter que Ingrao, l'historien, insiste sur la dimension de l'émotion, parce qu'il considère que ce qui a mû les nazis, les SS, c'est la ferveur, l'utopie, dans laquelle l'extermination des Juifs est la condition sine qua non pour la germanisation des territoires occupés. Ils pensent, c'est eux ou nous, ils pensent aussi, il faut les tuer tous pour créer notre rêve. Donc, c'est une logique qui a ses sources dans l'émotion collective et que le témoignage fictionnel de Howe ne capte pas. Bon, en bref, la fiction testimoniale serait vouée à l'échec dès qu'il s'agit de saisir les rouages de cette machine monstrueuse. Alors, un dernier point qui revient tout le temps, c'est le débat sur les bienveillantes, sur le fait que le récit du bourreau est à la première personne. Donc, les risques d'identification sont grands. Alors, certains voient dans cette, je cite, « cohabitation douloureuse, pénible, souvent insupportable, qui nous est imposée par le narrateur », l'une des forces du roman. Et d'autres, au contraire, dénoncent cette absence de distance, et là, je cite Julia Kristeva, entre le narrateur et le bourreau, qui rend difficile, sinon impossible, la moindre distance à l'égard de son univers antisémite et nihiliste, et l'ensemble, écrit-elle, contribue à mimer l'emprise de l'idéologie nazie sur le lecteur des temps modernes, des inhibés. Donc, c'est ici la légitimité et les conséquences d'une poétique, donc d'un maniement du récit rétrospectif à la première personne, qui deviennent objet de litige. L'esthétique, vous le voyez, est indissociable, d'un problème éthique et des graves questions sociales et politiques qui y sont liées. Alors, il y a plus, parce que cette question de la narration à la première personne, elle est indispensable de la relation que le jeu tente de tisser avec le lecteur dans le texte. Et c'est un des aspects du roman qui est le plus disputé. Ça, c'est le fameux incipit du roman que je vous laisse lire. « Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s'est passé. » Et puis, ça vous concerne. Vous verrez bien que ça vous concerne. Donc, d'un côté, il y a ceux qui considèrent que Little pose dans toute son acuité la question de la normalité des bourreaux et donc nous oblige à reconsidérer ce dont chacun de nous est capable. Dans le magazine littéraire, on lit que les bienveillantes sont une plongée atemporelle dans les profondeurs de l'homme. On se retrouve obligé de se regarder soi, obscur face à face. C'est d'ailleurs dans une dialectique de miroir brisé la véritable interrogation des bienveillantes. Et vous ? Donc tout un chacun peut devenir un bourreau. C'est la leçon d'un récit où le narrateur souligne qu'il est comme chacun des lecteurs. Et les défenseurs de Little considèrent qu'il faut se confronter à cette vérité et en prendre pleine conscience, et justement pour empêcher la résurgence de la violence extrême. Et cela d'autant plus qu'on assiste de nos jours au retour des massacres et des entreprises génocidaires. C'est ce que vous trouvez dans cette citation de Blumenfeld dans Le Monde. Mais pour les autres, il s'agit d'un exercice littéraire odieux qui voudrait nous faire assumer l'abjection du bourreau au titre de notre appartenance commune à l'humanité. Et c'est ce que dit Ronald Blunden, qui est donc lecteur chez Kalman Levy et qui justifie ainsi son rejet du manuscrit de Little, qui évidemment fait perdre beaucoup d'argent à son éditeur. De plus, comme l'écrit Husson, l'idée juste selon laquelle tout homme peut devenir un bourreau sert en fait, sous la plume de Jonathan Little, à relativiser les crimes du nazisme. Et alors cela d'autant plus, disent certains, que le roman a recours à la mythologie, hein, puisque les bienveillantes, c'est les Euménides, et l'allusion à Oreste est transparente. Or, dans la mythologie, l'homme est en proie au destin. Alors, on tombe sur la question capitale de la responsabilité. Cette idée de responsabilité est minimisée par l'idée d'une fatalité, mais aussi par des justifications sociologiques qui diraient que dans un ensemble donné de circonstances, l'individu assujetti à l'État fait ce qu'on lui dit de faire. Et Howe dit à son lecteur, il y a peu de chance pour que vous soyez l'exception. Sur ce point aussi, les passions se déchaînent. Dans le monde contemporain si friand de violence, est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut donner cet alibi au nazisme ? Est-ce qu'il est bon d'eximer un personnage de SS tortionnaire en proie à des forces qui le dépassent et de l'écouter quand il vous dit « mais vous, vous auriez été comme moi ?» À la question de savoir si le lecteur est vraiment son frère, Julia Kristeva répond dans un sursaut de révolte « je réponds pour ma part et sans hésiter, non. » Alors, conclusion, à l'issue de ce très bref parcours, je voudrais revenir sur la controverse littéraire dans son rapport à la polémique publique, puisqu'elle la rejoint, mais elle n'en fonctionne pas moins différemment et elle remplit aussi des fonctions différentes. Alors, premièrement, la polémique publique, elle est tournée vers la décision et l'action. En fait, elle est le moteur de la délibération qui doit déterminer l'avenir de la cité, de la police. Hein, Antoine Compagnon citait tout à l'heure Chantal Mouffe. Soit parce que cette délibération est directement la source d'un choix politique, soit parce qu'elle façonne l'opinion publique. Mais la controverse littéraire, elle, n'est pas délibérative. Elle ne discute pas de mesures à prendre, de lois édictées. Elle ne donne pas une impulsion au militantisme ou à la protestation sociale. Au fond, la controverse littéraire relève en un premier temps de l'épidictique, qui est en rhétorique le domaine de la louange et du blâme. Et de ce point de vue, la polémique participe au palmarès des auteurs et au jeu des positionnements qui régit le champ littéraire. Mais, justement, si elle dépasse cette querelle d'experts pour se muer en polémique publique, c'est bien parce que ces positions antagonistes affectent aussi l'espace social. Alors, comment est-ce que cela se passe ? Eh bien, l'importance, si vous voulez, bon, disons que c'est la fonction mémorielle, hein, nous sommes dans la fiction à valeur de témoignage, et c'est sa fiction mémorielle qui est ici en cause. Pourquoi ? Parce qu'elle modèle l'image que je me fais à travers le passé de ma collectivité, de ma culture, et donc aussi de moi-même. Qu'est-ce que la violence extrême des deux guerres mondiales m'apprend sur moi-même, en tant que membre d'une collectivité, en tant que représentant de la culture occidentale et plus globalement, en tant qu'être humain ? Mais aussi, en même temps, qu'est-ce qu'elle m'enseigne sur les voies à suivre pour assurer un avenir meilleur. Et pour reprendre les termes d'Emmanuel d'Amblon, comment le témoignage dysphorique dépouche-t-il sur l'utopie d'un monde délivré de la barbarie ? Une bonne compréhension du passé devrait garantir l'avenir. C'est en ce sens que la fonction de la fiction testimoniale est cruciale. Encore faut-il s'entendre sur la façon de parvenir à ce résultat. Et donc vous voyez comment les considérations techniques, comment, s'élaborent vers des questions plus générales de type éthique et existentiel qui sont liées à des questions de poétique. Donc, tout d'abord, sur le plan de la communication, les questions qui ont été soulevées. Dans la société contemporaine, est-ce qu'il suffit à la fiction testimoniale de tracer un tableau fidèle de la guerre et de ses massacres pour en conjurer le retour ? Dans la mise en mots du réel, comment empêcher toute héroïsation ? Comment empêcher toute fascination morbide de la violence ? Et sur un autre plan, à qui convient-il de déléguer la parole ? Celle du bourreau est-il légitime ? Comment représenter le bourreau ? Faut-il le montrer en être humain, auquel il est possible de s'identifier ? Ou bien au contraire en monstre situé en dehors de l'humanité, donc il ne nous concerne pas ? C'est-à-dire que le mal absolu, est-ce qu'il peut surgir en chacun de nous ? Ou est-ce qu'il est la figure par excellence de l'autre ? Ce sont les deux positions antagonistes qui déchaînent les passions. Un débat véhément qui porte aussi sur la question de la responsabilité. Est-ce qu'elle incombe entièrement aux individus ou est-ce qu'elle retombe essentiellement sur l'idéologie dominante ou sur l'État en déresponsabilisant en partie ou entièrement ceux qui en subissent le joug ? Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, en fait, ces interrogations sur des sujets sensibles surgissent de dissensions sur le traitement romanesque d'un passé traumatisant qui tourne autour de questions de poétique. Donc, très rapidement, la question du réalisme brut ou de la dramatisation, de la narration à la première personne, de l'identification, de la représentation esthétique du mal et de la violence, de l'inscription du lecteur dans le texte, etc. Donc, c'est un débat contradictoire très virulent sur la littérature qui problématise ces voies VOIE et ses enjeux. Mais en même temps, il déborde amplement la discussion sur les textes. En entrelaçant, je mets toujours la conclusion en entier parce que je ne sais jamais si j'aurai le temps de la faire, mais là je vais la lire. En entrelaçant l'esthétique et l'éthique, les controverses littéraires agitent les grandes questions issues du passé, celle qui contribue à hanter la conscience européenne. Elle montre comment elle déchire les individus sur la façon dont il convient de comprendre le passé, de gérer la mémoire collective, d'en tirer des leçons sur nous-mêmes et sur l'avenir de la collectivité. Ainsi, la polémique ne vise pas à une polarisation qui divise les citoyens en groupes antagonistes et les soude autour d'une cause, donc cette polémique littéraire n'est pas un foyer de protestation sociale ou un levier de décision et d'action. Sa fonction, elle est principalement heuristique, dire qu'elle fait entendre sur la place publique des voix contradictoires qui soulèvent de grands problèmes sociaux et philosophiques au plus près de notre vécu. Sa vocation n'est pas de mener un consensus sur une thèse déterminée, en général, dans la polémique, nous restons dans le dissensus, mais bien de manifester des problèmes latents et de susciter la réflexion. Et je pense que par ce travail de dévoilement et de problématisation, la controverse autour des fictions testimoniales muées en polémique publique redouble ce que je considère être l'une des dimensions essentielles de la littérature. Je vous remercie de votre patience.
Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé avec ces études de cas, deux cas qui... Je pense que ce n'est pas par hasard, on justement trait à des guerres. première et seconde. Ce sont des débats contradictoires sur des représentations de conflits. Alors, tu prends évidemment bien soin en présentant les thèses contradictoires dans l'un et dans l'autre cas de ne pas te prononcer. Tu observes ces deux controverses, puisque les deux controverses ont été importantes. Je pense que la controverse sur Norton Cru a été plus durable, l'autre plus éphémère. La controverse sur Norton Cru a occupé une large partie des années 30 parce qu'elle était le fait d'acteurs de la guerre. Ils étaient donc tous concernés au chef, alors que la controverse sur le roman de Jonathan Little est le fait de journalistes et d'historiens qui sont d'une autre génération et qui ne sont pas aussi engagés dans le débat. Parce que la controverse sur Norton Cru est très longue et très importante. L'autre, c'est un peu un effet de lecture. Mais je veux t'interroger sur la manière dont tu peux suspendre ton propre jugement en analysant ces deux controverses. Et puis j'aurai une autre question après, mais sur ce point-là.
Ah, voilà. C'est une question importante. Bon, en fait, moi, j'adopte dans ma démarche une position comme ça de neutralité axiologique. Il y a eu un grand débat là-dessus autour de Nathalie Hennich. Et j'adopte un petit peu sa position, c'est-à-dire que je ne veux pas faire partie de la controverse. Je ne suis pas partie prenante. Je ne soutiens ni un côté ni l'autre. C'est ce que j'essaye de faire aussi dans mon ouvrage, donc Apologie de la polémique. Mais mon but est de montrer comment fonctionne une polémique publique et quelle fonction elle remplit, en essayant justement de montrer les deux côtés, de montrer les arguments des uns et les arguments des autres, et en faisant ainsi réfléchir. En réfléchissant d'abord ainsi moi-même, et en faisant ainsi réfléchir l'auditeur ou le lecteur sur ce face-à-face, sur des questions qui sont des questions quand même assez importantes pour justement déchaîner des débats aussi virulents. Donc voilà, c'est un petit peu la position que j'adopte en général dans mes travaux. Ce qui ne veut pas dire que je suis absolument neutre. Si vous voulez savoir mon avis personnel, vous pouvez m'inviter à prendre une tasse de café. Vous êtes peut-être un peu nombreux aujourd'hui, mais ça peut se faire. Mais dans mon travail, j'essaye justement de dévoiler ceci. En ce qui concerne Jonathan Little, moi, j'ai quand même été étonnée de voir l'abondance des écrits. Bon, d'abord, des articles de journaux, et puis des articles savants qui se sont accumulés au cours des ans, et des livres, vraiment des ouvrages consacrés à ce texte. Et ça montre bien donc, à quel point, finalement, même si il ne s'agit plus évidemment de témoins impliqués dans la Seconde Guerre mondiale et puis dans la Shoah, à quel point ce livre soulève des questions qui sont de nos jours actuelles. Parce que il touche donc à cette idée de la parole du bourreau, de l'altérité ou non du bourreau, de la possibilité d'une résurgence qui nous fait peur et des moyens qui sont les meilleurs pour l'empêcher. Donc de questions qui, en quelque sorte, hantent notre conscience et notre imaginaire aujourd'hui, et qui sont relancés à partir de ce texte, il me semble, non ? D'ailleurs, toi-même, Antoine, tu as écrit un article que j'aime beaucoup dans Critique sur ce roman.
Oui.
Il avoue.
Alors, une question que je me pose en t'écoutant, fais-tu une différence entre polémique, controverse et ce que tu as appelé à la fin débat contradictoire? Ou pour toi, ce sont à peu près des synonymes, polémique, controverse, débat contradictoire? J'ai l'impression que tu employais ces termes.
Oui, oui,
de manière à peu près synonyme.
Un petit peu indifférencié. Alors, on peut faire une différence. Par exemple, j'ai mon collègue, Marcelo Descal, qui explique, par exemple, que ce qu'il appelle une dispute, donc, qui est un petit peu... Bon, alors, je prends un petit peu dans notre sens. C'est-à-dire qu'il y a... ce serait de l'héristique, voilà. Il y a des cas où chacun tente de l'emporter sur l'autre, aucune solution, aucun compromis n'est possible, on ne débouche jamais sur un accord. Et voilà, ça, ce serait pour lui la polémique, alors que la controverse, elle, serait en quelque sorte un échange d'arguments plus raisonnés, où on essaye en quelque sorte de trouver des points communs et d'aboutir à un compromis en pesant la validité des arguments de l'autre. Donc ce serait quelque chose qui relèverait plus du logos que l'autre. Moi, personnellement, ici, j'avoue que dans cette... je ne suis pas entrée là-dedans, et j'ai dit controverse littéraire et polémique publique, peut-être pour ne pas dire polémique littéraire et polémique publique, mais en fait, je l'ai entendu dans le même sens, puisque les cas que j'ai pris... relever tous de la polémique. Maintenant, le débat contradictoire n'est pas nécessairement polémique. Nous sommes dans la polémique quand nous avons deux positions dichotomisées, c'est-à-dire où chacun pousse l'une des positions à l'extrême, comme je le disais tout à l'heure, c'est noir ou c'est blanc, quand cette dichotomisation entraîne ce qu'on appelait une polarisation, c'est-à-dire la création de deux groupes antagonistes vraiment qui s'excluent mutuellement et qui se battent, et tout ceci agrémenté du fait qu'on déprécie l'autre, ce qui peut aller de remarques plus ou moins polies à l'invective. Donc ces conditions sont nécessaires pour qu'il y ait polémique. Voilà. S'il n'y a pas dichotomisation, polarisation et discrédit jeté sur l'autre, il n'y a pas polémique.
Et donc dans la polémique, il y a la volonté de blesser.
Oui.
D'après ce que tu dis.
Oui, dans la polémique, il y a une volonté de blesser parce qu'il y a une volonté, en quelque sorte, de discréditer la parole de l'autre complètement. De montrer que c'est une parole nulle et non avenue, donc de jeter en quelque sorte l'autre en dehors de l'arène. Et de ce point de vue-là, il n'y a évidemment pas, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de tentative de rapprochement, il n'y a pas vraiment une prise en compte de ces arguments. C'est un jeu réglé, hein. C'est un jeu réglé et ça dépend des cadres institutionnels. Bon, on n'a jamais vu dans un débat télévisé quand deux candidats politiques polémiques, on n'a jamais vu l'un des deux dire « Tiens, au fond, vous avez raison, j'y avais pas pensé ». Vous voyez, ça ne fait pas partie des règles du jeu. Donc, ça dépend des cadres et c'est de toute façon une certaine...
Oui. Mais tu appellerais donc polémique un débat télévisuel entre deux candidats ?
Un débat télévisuel entre deux candidats à partir du moment où... Non, mais la polémique, ce sont des moments. Tu vois ? Il y a des moments polémiques. Donc le débat lui-même n'est pas nécessairement une polémique. Mais dans le débat, il peut y avoir des moments polémiques. Et ces moments polémiques sont caractérisés par les traits que je viens de décrire, que je viens de donner. Mais voilà, on peut le voir dans des débats, il y a des moments plus sereins et puis il y a des moments polémiques. Et dans ces moments polémiques, il y a le discrédit de l'autre, même si certaines règles de politesse sont encore en jeu, ce qui est d'ailleurs de moins en moins le cas dans les débats politiques, comme vous avez pu le remarquer.
Donc, l'hypothèse que tu fais, qui me paraît forte, c'est que dans la polémique, il y a une adhésion, malgré la polémique, à des normes fortes, je crois que tu as dit ça, communes.
Oui.
Oui. J'en doute un peu. Non. J'aurais tendance à dire qu'on atteint la polémique justement au moment où on sort de l'adhésion à des normes communes fortes. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans la volonté de détruire.
C'est-à-dire, pour débattre de quelque chose, pour en faire une question d'intérêt public qui est débattue polémiquement, il faut d'abord qu'on s'accorde sur ce que c'est qu'une question d'intérêt public. Je veux dire, est-ce que la question que je soulève est bien une question d'intérêt public. Si l'autre partie considère que c'est absolument pas pertinent, il ne va pas entrer dans un débat. Donc déjà, dans une société donnée, il y a des questions de polémique qui sont admises. Bon, ces questions de polémique, il y a des questions, disons, qui peuvent être considérées comme étant à discuter. Par exemple, en France, je vais donner un exemple un peu bête, c'est celui du burkini. Bon, moi, je viens d'Israël, personne n'a compris pourquoi on discutait sur le burkini et pourquoi il y avait une polémique là-dessus. Et en fait, c'est parce qu'il y a ici en France une série, en tout cas, de normes qui relèvent d'une laïcité, d'une laïcité qui n'existe pas en Israël. Israël n'est pas un pays laïque. Il n'a pas cette conception de la laïcité. Donc, la question du burkini ne paraissait pas, pour les Israéliens, un sujet d'intérêt public, et ils ne comprenaient pas pourquoi on en discutait. Alors, voilà, déjà un accord sur qu'est-ce que c'est qu'un sujet d'intérêt public. Maintenant, il faut aussi quand même qu'on ait un background, une base commune à partir de laquelle on puisse discuter. Quand cette base commune n'existe plus, il n'y a plus de polémique, on en vient au coup. Normalement, la polémique est là, selon moi, mais je ne suis pas la seule à le penser, c'est un peu ce que dit Chantal Mouffe, la polémique, elle transforme les ennemis, dit Chantal Mouffe, en adversaires. Et les transforme en adversaires. Les adversaires, ça veut dire que chacun admet aussi le droit de l'autre à penser autrement et à répondre, même si on essaye de le descendre en flèche. Mais il a le droit de penser autrement et de répondre. Et il peut le faire dans un débat, donc de façon, dans un combat verbal. Voilà, c'est un peu ça que j'essaye de dire. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment la littérature était entraîné dans ces débats publics et quel était du coup son pouvoir heuristique par rapport à ce qui se débattait sur la place publique.
Alors une question, pourquoi ne le serait-elle pas entraîné? Parce que tu as suggéré à certains moments qu'on était simplement dans l'épidictique quand on critiquait la littérature, et moi j'aurais envie de dire jamais exclusivement.
Oui.
Il y a une dimension pragmatique de la littérature ou éthique qui fait que...
Il y a quand même des polémiques qui peuvent se faire autour de certaines esthétiques.
On peut faire une polémique du vers libre, c'est ça. Donc, par exemple, la polémique. On peut avoir une polémique sur le vers libre qui n'aurait...
Tout à fait.
En dessus, oui.
Il y a eu beaucoup de polémiques de ce genre, quand même.
Oui.
Donc,
c'est ce que Ira y appelait les querelles générales. Les querelles générales.
Celle-là, par exemple.
Une querelle générale, oui, peut-être que une querelle littéraire générale n'a pas d'effet de réel.
Bon, en fait, tous les romans, tous les livres qui paraissent ne remplissent pas, ne font pas la une des journaux. Heureusement, d'ailleurs. Donc, il y a certains textes, plus que d'autres, qui déclenche en quelque sorte des polémiques, des débats passionnés, où les gens prennent la peine d'écrire pour et contre. Et donc, il est à supposer que ces livres-là, soulèvent des questions d'importance, ou en tout cas des questions qui, à ce moment-là, paraissent importantes et qui rejoignent des débats de société. Donc, la question était de savoir quelle est, du coup, la valeur ajoutée, parce que je peux très bien discuter d'une question de société en dehors de la littérature, mais à partir du moment où ça devient une discussion, une polémique autour d'un roman, quelle est la valeur ajoutée de ce type de controverse, voilà, puisque je l'utilise indifféremment, par rapport à ce qui se discute de façon directe sur la place publique. Et je ne sais pas si mon faible pour la littérature me disait immédiatement, intuitivement, qu'il devait y avoir une valeur ajoutée, mais encore valait-il voir quelle était cette valeur ajoutée, qu'est-ce que ça éclairait, qu'est-ce que ça déplaçait, qu'est-ce que ça donnait, voilà, quelle était la contribution. Est-ce que c'est juste, parce qu'on peut dire, finalement, voilà, les bienveillantes paraissent, et puis c'est un coup de publicité, les critiques discutent dans les journaux, ça fait de la publicité au livre, ça fait un petit peu partie du marché, ça fait vendre. D'ailleurs, Little, lui, il s'est bien gardé d'entrer dans la polémique, hein. Il était très, très content que ça marche sans lui et que les ventes ont été extraordinaires. Donc, on peut le voir comme ça aussi. Et c'est vrai, en plus, hein, ce n'est pas faux. Mais donc, la question était de savoir si, au-delà de cet aspect, s'il y avait une autre dimension qui devait être prise en compte et qui nous en apprenait plus.
C'est-à-dire qu'on pourrait dire, oui, la polémique a eu lieu, si c'est une polémique, mais la même polémique peut se reproduire 3 ans après.
Ah, ben tout à fait.
C'est-à-dire la valeur heuristique. Et...
Oui. Les questions ne sont pas... C'est-à-dire, dans ces polémiques, on a soulevé des questions. Donc, certaines questions, on les connaissait déjà, on les a approfondies, on les a... reprises, on les a commentées. Parfois, il y a des questions qui sont moins évidentes et qui sont mises au jour comme ça, qu'on explore, qu'on découvre, qui sont éclairées justement par une polémique autour d'un roman. Mais même les questions qu'on connaissait au fond déjà, quand on voit l'ampleur et finalement les passions qui s'investissent dans ces discussions, on peut voir à quel point ces sujets sont importants et sont ancrés dans l'imaginaire contemporain. Et donc, je crois que ça nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes.
Alors, une question encore. Est-ce que le terme de polémique est utilisé dans ces deux cas par les intervenants ?
Oui, souvent, oui. Mais bon, si tu veux, le terme est utilisé, mais il faut dire que dernièrement, tout devient polémique. Alors, je ne sais pas, si tu ouvres les journaux, tu regardes les infos, chaque fois on dit polémique, tous les jours il y a une nouvelle polémique. Oui. Donc, le terme de polémique est utilisé.
Oui. Dans ces cas-là,
oui.
Par les acteurs. Parce qu'on peut écrire pour et contre sans qu'il y ait polémique.
C'est ça.
Et j'ai l'impression que parfois tu fais une sorte de synonymie entre écrire pour et contre et...
Ah oui, mais d'accord. Non, c'est parce que moi, si tu veux, je prends cette notion de polémique, donc je considère que dans l'espace public, il y a une circulation des discours. Bon, cette circulation des discours, surtout à cause des médias. Hein, voilà. Donc, il y a des positions qui s'expriment. La personne qui exprime une position violemment contre, elle ne répond pas nécessairement directement à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, les polémiques ne signifient pas qu'il y a un dialogue en face à face ou qu'un polémiqueur répond à l'autre. Mais ces discours qui circulent, ils dessinent une sorte de configuration dans laquelle on retrouve cette polarisation, ceux qui sont pour. Oui, il faut faire parler le bourreau nazi. Oui, il faut montrer que, en fait, on pourrait, chacun de nous pourrait en devenir un, contre ceux qui disent « mais non, c'est horrible », etc. Et si tu veux, ça crée une polémique publique, même quand les gens ne se donnent pas la réplique directement, et même quand chacun d'eux ne qualifie pas son discours de polémique.
Encore une question. Comment concilier cette position avec ce qu'on dit du débat contemporain, où chacun s'informe exclusivement auprès de ceux qui pensent la même chose sur les réseaux sociaux? Donc il n'y a plus de polémique, puisque tout le monde est dans sa bulle et n'a plus d'informations que de ceux qui pensent la même chose. Donc c'est la fin de la polémique.
Moi, je suis en fait, comme j'enseigne l'argumentation, et je commence toujours en disant à mes étudiants que je n'essaye d'avance de persuader que ceux qui pensent comme moi.
Comment ?
Je n'essaye de persuader que ceux qui pensent comme moi. C'est clair. Ceux qui ne pensent pas comme moi, ce n'est pas la peine. Bon. Mais...
Donc il n'y a aucune heuristique.
Si.
Aucune heuristique.
Il y a parce que... Alors, si tu regardes... Bon, moi, j'ai étudié les forums de discussion.
Oui.
Tu vois ? Dans les journaux. Bon, je prends les journaux classiques, je ne sais pas, Libé, Le Monde, Le Figaro, et je regarde les forums de discussion. Et dans les forums de discussion, bon, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus intéressant qu'on pourrait le croire au premier abord. Et les gens expriment, ils ne passent pas juste leur temps à s'injurier, ils expriment des positions contradictoires, parfois avec beaucoup de véhémence et parfois moins. Et il y a des échanges. Alors, ce ne sont pas des échanges deux à deux, hein, c'est compliqué, il y a des fils, enfin, vous connaissez les règles. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour prendre l'exemple du forum, les gens sont en quelque sorte exposés à des positions qui ne sont pas les leurs, qui sont même tout à fait antagonistes. Alors, je ne dis pas qu'immédiatement, ils vont changer d'avis. Peut-être ne vont-ils pas du tout changer d'avis. Mais je pense qu'il est quand même intéressant, à travers les nouvelles technologies, qu'ils puissent être exposés à ces autres logiques et à ces autres idées, hein, même si après ils disent « mais c'est illogique, ce sont des faux, etc. » Mais ils ont été exposés à cela. Et je pense que ça, c'est l'une des fonctions de la polémique publique telle qu'on peut la voir aujourd'hui dans les nouveaux médias. Parce que à partir du moment où il n'y a plus du tout de lien social, on est dans une coupure absolue. Donc les gens peuvent rejeter, refuser ce que dit l'autre, mais quelque part, puisqu'ils vont sur les réseaux sociaux, c'est quand même pour l'entendre, ne fût-ce que pour les réfuter. Et donc, c'est ce que j'avais appelé créer du lien social.
Mais ce n'est pas ce qu'on dit actuellement des réseaux sociaux. Ce qui est dit des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on y va simplement pour confirmer dans le cercle des gens qui pensent comme vous. C'est ça, l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Ce n'est pas les forums que tu décris.
Ça dépend.
C'est un peu idyllique, ta conception.
Si tu vas sur le site de Dieudonné, peut-être...
De quoi ?
De Dieudonné. Moi, je ne vais pas sur le site de Dieudonné, parce que j'ai peur que... Voilà. Mais tu vas sûrement trouver des adeptes, des fans qui se confortent mutuellement. Donc, ça dépend des sites et ça dépend des réseaux sociaux. Mais il y a des réseaux sociaux où les gens, à la fois, se confortent, parce que qu'est-ce qui se passe ? Ils vont trouver une série de gens qu'ils ne connaissent pas et qui pensent comme eux, et ça va les rendre heureux, ça va les conforter parce qu'ils forment des communautés virtuelles, donc ils sont contents. Mais en même temps, il y a de l'autre côté d'autres communautés virtuelles et ça discute. Ça discute de façon assez véhémente. Alors, ça dépend évidemment des forums de discussion, ça dépend des journaux, hein. Il y en a qui sont plus frustes que d'autres, je dirais. Bon, mais ce n'est pas du tout une conception idyllique, parce que, de toute façon, ils ne sont pas là pour se mettre d'accord, hein, c'est clair.
Bon, je crois qu'on va te remercier.
Dans le consensus.